Alors, on va continuer cet exercice que je trouve, pour ma part, extrêmement difficile. J'avais commencé mon enseignement ici avec les choses les plus simples qui étaient, on prend un texte, on voit ce qu'il y a dedans, on en parle, on le commente, et c'est naturellement quelque chose d'extrêmement simple, hein. L'historien rend compte de sa documentation, et si la documentation est nouvelle, eh ben, c'est très bien. Là, vous voyez, ce qui m'arrive, c'est que j'essaye, pour arriver à tout comprendre, à rentrer dans une documentation qui n'existe pas. Bon. Et ça vous fait rire. Bon. C'est bien de le prendre gaiement. C'est cette population du temple. C'est-à-dire que c'est ça qui est enrageant. Il y a une de nos documentations fondamentales qui manque. On sait qu'il y a le palais, il y a la ville qui est plus ou moins absente, et le temple qui est complètement ailleurs. Alors que si vous regardez du côté de l'Irak, eh bien, c'est exactement le contraire. Le temple est omniprésent. Le palais, pas tellement, parce qu'à notre époque, les palais, ils sont sous l'eau, ils n'ont pas encore été trouvés, ou bien ils ont été entièrement détruits. Et là, on a la paix, à Eshnouna, par exemple, on a retrouvé le terrain rasé. Bon, c'est aussi simple que ça. Et la documentation des gens à côté, des bourgeois, bon, et puis, ça ne coïncide pas. Alors, Ce qui est d'une certaine façon rassurante, c'est que la documentation de Marie est tellement riche que tous les sujets sont abordés. On arrive à parler de tout. Seulement là, sur le domaine du temple, on a des points documentés et puis il faut essayer de tout rassembler. Alors, vous voyez ce que j'ai entrepris de faire. J'ai essayé je suis parti de l'idée auquel je pense réellement, profondément, que le Proche-Orient, il y a une base unitaire avec des documentations particulières qui apparaissent à droite et à gauche et qui font la caractéristique de Sumer, la caractéristique d'Akkad, la caractéristique de Marie, celle du Nord qui commence à apparaître, etc. Bon. Mais il y a une immense culture homogène à l'intérieur qui représente l'unité proche-orientale et dont de plus en plus, les gens se rendent compte à l'heure actuelle. Je ne suis pas le seul à me rendre compte. Tout le monde s'en rend compte qu'à l'heure actuelle, il faut renoncer à la grande idée qui était celle que mes maîtres m'ont appris, qu'il y avait à l'origine Sumer qui a irradié sur le monde. Bon. Et petit à petit, les barbares aux alentours ont été acculturés. Ça, c'est une vision grecque des choses où vous avez un centre culturel et une barbarie environnante. Bon. Ça, maintenant, on l'a abandonné. Seulement, pour arriver à retrouver ce qui est le soubassement et l'unité du proche oriental, eh bien, il faut jongler avec des documentations qui ne sont pas synchrones. Et vous avez vu, on est allé prendre, c'est ce que je vais prendre, une documentation administrative qui renseigne sur l'origine des gens du temple. Parce qu'on a les actes, on a les énumérations des gens. Mais on ne vous dit pas, on ne vous dit pas ce que les agissements, ce qu'ils font. On vous dit simplement, bon, ils font, celui-là ne voit pas, celui-là est un goitreux, celle-là c'est une veuve, etc. Il reçoit telle ou telle part. Bon, mais on ne les voit pas agir. Et quand ils sortent de ce milieu-là et qu'ils vont vers le privé ou vers le palais, eh bien à ce moment-là, ils ont des étiquettes nouvelles et comme il n'y a pas de curriculum vitae à l'époque, on ne sait pas qui est qui et d'où ils viennent. Bon, si on va à une documentation postérieure, c'est celle de Edin Dagan A, dont j'avais parlé, qui est une documentation littéraire. Et une documentation littéraire, c'est une documentation qui est très difficile à manipuler d'un point de vue historique. Parce qu'il y a des intentions. Parce qu'il y a la façon de décrire qui prime par rapport à l'information. Et puis, vous avez vu cet hymne, il renseigne sur des moments très importants, mais il ne vous raconte pas tout ce qui se passe. Il y a des choses à picorer à droite et à gauche, comme ça, et puis il faut mettre le lion à l'intérieur. Et le troisième témoignage que j'ai pris avec vous, c'était de l'époque grecque, c'est-à-dire tout à fait au moment où le monde proche-oriental va disparaître, et c'est une vision complètement négative et franchement hostile de quelqu'un qui regarde ça sans très bien le comprendre. Alors, je vous avais dit, quelqu'un qui est spécialiste des hautes époques, comme je le suis moi-même, regarde le Dédé à Syria, il dit à ses collègues, il y a plein de choses dedans qui me rappellent des choses de l'époque ancienne. Et naturellement, il s'est interprété autrement. Et on a tout à fait l'impression que c'est la même chose qu'avec un bibliste, quand il met son texte tout à fait à l'époque récente et qu'on lui dit, ouh, mais à l'époque ancienne, il y a plein de choses qui annoncent déjà ce qui se passe. Et comme toujours, c'est doit-on rester à l'époque de rédaction ou doit-on regarder vers les endroits d'où cela vient ? Alors, il est bien évident que celui qui, le soi-disant Lucien Lucianos, qui a regardé à Hierapolis ce qui s'est passé, il a entendu des choses, il les a vues, il les raconte. Et lui dire c'est le résultat de quelque chose de plus ancien, c'est quelque chose qui est naturellement, qui peut être très fragilisé par la moindre documentation annexe qui peut arriver. Bon, alors je suis tout à fait conscient de ces choses-là, mais je pense que si on veut retrouver un certain milieu proche-oriental qui fait son unité particulière et qui fait sa zone en quelque sorte de culture, eh bien il faut jouer comme ça sur les différentes apparitions de la documentation, en sachant naturellement que on complète un côté par un autre, mais qu'on n'a jamais une vision sereine et complète de la réalité historique. Alors j'en suis, ce n'est pas la peine de me le dire, j'en suis moi-même le premier persuadé. Et alors, parmi ces gens-là, je vous avais pris deux personnes qui étaient la Sinoum et le Kourgarou. Pourquoi ? Parce que ce sont, dans cette population du temple, des gens que l'on peut suivre sur plusieurs siècles. Et la documentation qui les concerne est multiple. Alors, je vous avais dit, attention, il n'y a pas un Sinoum et un Kourgarou, ça, ce sont des entrées de dictionnaire. Mais l'un vient de l'autre. Et tout particulièrement, celui qui est à la base de tout le monde, c'est l'Assinoum. Il est très bien attesté dans la littérature lyrique de l'Irak au XIXe siècle avant le Christ. Ça, c'est, il y a eu beaucoup de renseignements le concernant. On l'a attesté dans les textes littéraires aussi de l'époque du premier millénaire, dans ce que l'on appelle les présages. Et les présages sont extraordinairement intéressants parce qu'ils vous décrivent la vie quotidienne. Et vous pouvez piocher beaucoup de choses dedans, quoique jamais la situation historique ne soit précisée. Bon. Le grand avantage des Assinous, c'est que maintenant, en dehors de ces attestations littéraires, ils sont aussi... ils apparaissent dans une documentation réelle qui est celle des textes de Marie. On vous parle d'Assinou, dont on vous donne des noms, dont on vous décrit ce qu'ils font, que l'on entend parler, alors que si vous regardez du côté de l'Irak, ce n'est qu'un type littéraire. Alors, c'est là où il va falloir jouer, naturellement. Si c'est un type littéraire, il faut regarder dans la littérature ce dont on parle, comment on le définit, comment on le décrit, etc. Mais en même temps, Marie, elle nous donne la chance de le voir apparaître réellement dans des situations concrètes et précises. Alors, je vous avais dit, si on reprend cette population du temple d'après les trois documentations, hein, celle que je vous ai donnée, j'ai appelé A, la première documentation administrative, B, la seconde documentation littéraire, et c'est le témoignage extérieur, ils sont partout des marginaux. Ce sont des marginaux. Bon, la documentation A, c'est extrêmement clair dans le temple. Les analyses de Gelb sont absolument magnifiques de ce point de vue-là. On peut les raffiner parce qu'il y a de nouveaux textes qui sont apparus. Mais fondamentalement, ce sont des gens qui sont des réprouvés ou des chassés, dont on veut se débarrasser, ou qui se réfugient dans le haut temple parce qu'ils quittent un monde qui leur est hostile. Et il y a manifestement autour d'eux une hostilité ambiante, et celle-là, elle est toujours perceptible. Bon. C'est très important d'arriver à voir un petit peu en gros cette société, parce que, comme je vous ai dit, comme c'est là que la prophétie, qu'une certaine sorte de prophétie se précise, on va comprendre pourquoi il y a des gens qui l'acceptent et d'autres qui ne l'acceptent pas. C'est là, fondamentalement, qui l'a. Parce que quand les gens vous parlent de prophétie, en général, ils considèrent qu'il y a un seul prophète. C'est celui par la bouche duquel Dieu parle. Et alors, à ce moment-là, on pense plutôt à Isaïe, à Jérémie. Ça ne suffit pas, n'est-ce pas ? Ça ne suffit pas. Il y a quelques grands prophètes, et puis il y a une masse prophétique. Et c'est cette masse prophétique qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut arriver à avoir. Ces gens, non seulement ils sont des marginaux, alors c'est surtout visible par A, mais ils sont aussi, ça on l'a vu très, très, très nettement, ils sont costumés jusqu'au déguisement. Alors, les costumes, il est bien évident qu'à l'époque, nous n'avons pas de documentation figurée. Mais quand on regarde les descriptions dans les textes, on se dit que ce n'était certainement pas la sobriété qui était la chose recherchée le plus. Le roi de Marie est tout content des belles plumes qu'il peut se mettre. Alors, imaginez le roi qui arrive avec des plumes. Je vous dirais que quand vous regardez un Louis XIV, les plumes, il connaît. Il connaît. Bon. Il a des dorures partout. Mais regardez la mode aussi avant. Bon, il y a du clinquant partout aussi. Les gens se montrent. Rares sont les sociétés où il y a une toge immaculée avec laquelle on se présentait au peuple. En général, on ajoutait une bande pourpre, on mettait du lustre un petit peu à l'intérieur, etc. Bon. Et alors, il ne faut naturellement pas croire que la décoration soit le propre des femmes. Il est bien évident que dans la mesure où quand une femme reste chez elle et quand elle sort, on lui met un voile sur la tête. Bon, vous me direz, c'est peut-être un cache-misère. Mais en même temps, ça prouve que si on lui met un voile sur la tête, eh bien, ce n'est pas la peine de faire tellement, d'avoir tellement de soucis de ce qu'on va se mettre. Ben, je me mettre en tailleur ou en petite jupe, etc. Un voile sur la tête, ça résout les problèmes. L'homme, au contraire, sort avec... Alors, il a une perruque sur la tête parce que ça lui permet de se protéger du soleil, qui, au Proche-Orient, n'est pas une chose négligeable. Hein. Bon, il a une perruque sur la tête... où il peut avoir un chapeau, etc. Et il a tous les ornements extérieurs. Et c'est l'homme qui se promène avec tous les colifichets qu'il faut avoir, à peu près comme dans l'agent animal, vous voyez la somptuosité d'un coq par rapport à la triste présentation uniforme des petites poules qui l'entourent. Si vous me permettez ce genre d'expression, de comparaison un petit peu hâtive. Hein, bon. Alors, vous imaginez, dans une société de ce genre, quand on reproche aux gens leur déguisement, ce qu'ils doivent avoir. Et vous avez vu, quand on avait vu Idil Dagan A, que non seulement il porte un chignon, mais qu'il s'est mis toute une série de rubans de toutes les couleurs attachés au chignon. Alors ça, le roi ne se présente pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut imaginer vraiment ces gens, ces milieux comme étant des milieux de carnaval. Et des choses qui attirent l'œil, de clinquants, ils font du bruit, ils attirent l'attention sur eux. Donc il faut vraiment avoir une vision chaude et coloriée de la situation. Alors, vous voyez qu'en B et en C, vous avez aussi, ils sont sous de bruit. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont toute une série de tambours sur lesquels ils, tape dessus, c'est, avec le sumérien vous dit avec le plat de la main et le tranchant de la main, donc il doit y avoir toute une série de modulations, et c'est justement dans cette frénésie de plumes, de rubans, de poussière, de chaleur, de bruit, etc., qu'arrive l'automutilation et qu'arrive aussi la prophétie. C'est là qu'il faut le rajouter, parce que c'est, pour l'instant, on n'a pas vu le phénomène de la prophétie, mais il est en filigrane derrière. Et il faut se mettre dans des moments de ce genre. Alors, quelqu'un qui est sous de chaleur et de bruit, et qui est en pleine exubérance, à ce moment-là, il poussera des cris, et dans les cris, il y aura des sons articulés auxquels certaines personnes vont faire attention, ou vont déclarer qu'il ne faut pas faire attention parce que vous voyez bien d'où ça vient. Voilà, et c'est là que se pose le problème. Alors, je vous avais fait le parallèle avec les Hijra, et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je vous avais dit, les Hijra, ce sont des gens qui sont des aux Indes, surtout dans l'Inde d'avant que les Anglais n'arrivent. Hein, bon. Ils faisaient partie de la culture, c'était des gens qui montrent bien l'aspect bizarre des choses, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont émasculés, plus ou moins volontairement, ou qui sont des impuissants de nature, mais leur présence est nécessaire dans un mariage parce qu'ils apportent la fécondité. Et c'est là que l'on se dit, mais comment est-ce que ces choses sont possibles ? C'est là que commence à rentrer cet aspect des contraires dont chacun s'appelle. Bon. Et je vais aujourd'hui reprendre ce phénomène des Hijra d'une façon tout à fait différente. Ce sont des gens qui ont pour tâche, une fois dans l'année au moins, de célébrer une grande fête dans laquelle ils vont mimer un mythe extrêmement important dont on a la trace dans le Mahabharata. Et tout particulièrement, ce mythe représente le mythe du sacrifice du mal parfait. Avant la bataille, il faut toujours faire un sacrifice aux dieux pour pouvoir mériter la bataille. Ça, c'est quelque chose qui est très courant dans les civilisations de la Terre. Et ce mal parfait, avant de le sacrifier, eh bien, il avait demandé d'avoir une vie complète, donc de connaître une femme, et le dieu Krishna s'était transformé en femme, justement. Alors, le dieu Krishna, c'est le mal par excellence, n'est-ce pas, dans la pensée indienne, s'était transformé en femme pour permettre à au sacrifié d'assouvir sa complétude, d'être complet lui, tout à fait. Et il y a un aspect, naturellement, qui est extrêmement bizarre dedans pour quelqu'un d'extérieur, ce dieu qui devient une femme, cette célébration qui arrive comme cela, ces gens qui s'automutilent. Ça pose une question fondamentale qui est, tous ces gens dans le temple qu'on a vu jusqu'à présent, que l'on voit par un regard extérieur, quelles étaient leurs motivations et quelles étaient, en quelque sorte, ce à quoi ils croyaient. Voilà, c'est ça qui est absolument fondamental. On a le texte du Mahabharata, on peut le voir. Et je crois que ce qui est le plus intéressant dans cette partie du temple que l'on aborde pour tout le Proche-Orient, mais alors là, par Sumer, par Akkad, par Marie, par la Phénicie, par tout le reste, c'est que c'est une société qui est autour d'une déesse femme. Et dans cette société qui est entièrement masculine et qui proclame le machisme d'une façon absolue, se mettre derrière une déesse femme, c'est créer en quelque sorte l'inversion de la société masculine normale. Voilà, c'est ça qui est fondamental au point de vue notionnel. Ce sont des gens qui vivent fondamentalement dans leur croyance l'envers de ce que les autres pensent. Et malheureusement, nous n'avons pas les textes qu'il pouvait avoir, sauf d'une façon négative. Alors, je vous ai rapporté là un de ces textes qui permet de voir un peu plus dans ce que dans la mythologie qui était autour de cette déesse femme, autour desquelles tous ces hommes, ces gens qui ne devaient plus être hommes, se réunissent. C'est le passage extrêmement célèbre dans lequel, dans le chant 6 de Gilgamesh, dans lequel la déesse a fait des avances à Gilgamesh parce qu'elle est attirée par cet homme jeune, beau, guerrier, viril, qui va à la conquête de tout le monde, et elle lui fait des propositions que vous appellerez naturelles ou honteuses. Bon, ça revient. Pour elle, c'était naturel, pour Gilgamesh, c'était honteux. Et il lui répond d'une façon extrêmement rude, et on admire la patience d'Eshtar de se faire dire tout ça. Elle s'entend raconter le catalogue de ses amants, n'est-ce pas ? Et on aurait aimé qu'elle lui ferme le bec tout de suite. Elle a la patience d'écouter, et pour nous, c'est une chance. Alors, regardez. Tammuz. Bon, Tammuz, c'est le fameux Dumuzi. Tammuz, l'amant de ta jeunesse, tu lui as alloué une déploration annuelle. Le rôlier, c'est un oiseau, l'oiseau à la loue. Alors, on traduit rôlier depuis Botero, parce que ça fait plus chic de dire rôlier que à la loue. Moi, je trouve que c'est aussi obscur de dire rôlier que à la loue. Je n'ai jamais vu de rôlier. Je ne sais pas ce que c'est, une sorte de pigeon, peut-être, je ne sais pas. Le rôlier polychrome, tu l'as aimé. Puis d'un coup, tu lui as brisé les ailes. Le voilà dans les bois qui piaillent mon aile. Le lion tout en vigueur, tu l'as aimé, puis tu lui as creusé 7 fois cette fosse. Le cheval renommé au combat, tu l'as aimé, puis tu lui as alloué le fouet à pointe et à lanière. Tu lui as alloué de courir sans fin et de ne boire qu'une eau souillée. Tu as endeuillé à jamais sa mère Silili. Ça continue. Hein. Tu as aimé le berger, le pâtre, le gardien de troupeau, qui pour toi sans cesse entassait la cendre et chaque jour sacrifiait des chevrettes. D'un coup, tu l'as changé en loup, que pourchasse ses propres vallées et dont ses chiens mordent l'arrière-train. Tu as aimé Ishulanu, le jardinier de ton père, qui ne cessait de t'offrir des dattes par couffin. Alors, il y a un grand couplet sur Ishulanu que j'ai limité à ces deux premiers. Quand vous regardez ce grand catalogue, la première chose qui apparaît, c'est qu'on nous parle de choses qui sont complètement inconnues partout ailleurs. C'est une mythologie perdue. Alors, vous me direz, c'est un rêve de poète. Eh bien, pas du tout, parce qu'à l'heure actuelle, vous voyez, tu as aimé Ishulanu, le jardinier de ton père. On a le texte qui vient d'apparaître et qui est le mythe de Shukaletuda en sumérien. Et ce sont des mythes que l'on a attestés de la haute époque en texte sumérien. Et on s'est dit qu'un jour, on risque d'avoir tous ces textes-là. C'est-à-dire qu'on fait en réalité allusion à des choses très bien connues, mais qui, pour l'instant, ne sont pas disponibles. Shukaletuda, moi, quand j'ai été étudiant, c'était le moment où on commençait à découvrir les fragments de Shukaletuda. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, peut-être, mais on peut espérer gagner des textes en d'autres. Bon, si vous le regardez, à part Tammuz et Ishulanu, qui est Tammuz, qui est du dieu Dumuzi, et Ishulanu, qui est un jardinier, partout ailleurs, vous avez des animaux. Bon, alors, il est bien évident que il ne s'agit pas ici de zoophilie, il s'agit ici, en réalité, d'anciens amants qui ont été transformés en animaux. C'est ça qui est important. Et vous voyez un texte de ce genre. Et c'est là où ça fait un petit peu tourner la tête, parce qu'on se dit, où est-ce qu'on peut arrêter dans les comparaisons ? Quelle comparaison on a avec ça ? C'est la comparaison qu'on a immédiatement, c'est avec Circé qui se trouve chez Homère, hein, dans laquelle, après avoir eu un amant, elle le transforme en animal. Et elle le transforme, vous savez, dans le texte homérique, avec un rabdon, un bâton, elle le tape, et il devient à ce moment-là un animal. Et si vous regardez, chaque fois, le relier, tu l'as aimé, puis d'un coup. Alors, d'un coup, c'est la traduction, tu l'as frappé et tu lui as brisé les ailes. Chaque fois, n'est-ce pas, on a tout à fait l'impression que on a ici toute une série de mythes étiologiques. Regardez le premier qui est extrêmement clair. Le relier polychrome, bon, le culte de Dumuzi, c'est quelque chose on va revenir tout à l'heure dessus. Le relier polychrome, tu l'as aimé. Puis d'un coup, tu l'as frappé, tu l'as brisé les ailes, le voilà dans ces bois qui piaillent mon aile. Mon aile, ça se dit capi, et manifestement, c'est le cri de l'oiseau, c'est-à-dire que d'après le cri de l'oiseau, on lui donne son nom et on crée son mythe. Vous avez ça exactement dans la mythologie grecque. Vous avez exactement ça dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, par définition, il y a toute une série de métamorphoses d'un être humain en animal suite à une histoire qui, très souvent, est de sens sexuel où il y a eu une divinité qui a fait des frasques, etc. Bon. Et il est évident que l'affabulation que vous avez là, je ne vous dis pas que les métamorphoses du grec et du latin viennent d'ici, mais je vous dis que c'est exactement le même état d'esprit. Je ne vous dis pas que Circé est la même que Ishtar, mais c'est la même façon de raconter les choses, la même façon de voir le rapport avec une divinité sorcière, etc. Alors, si vous regardez tout ce catalogue, ce qui est évident et ce qui est choquant d'un point de vue babylonien, vous avez une femme qui n'est pas choisie, mais qui choisit. On ne vous dit pas « le relier t'a aimé ». On dit « tu as aimé le relier ». Et chaque fois, c'est ça qui est fondamental, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est une femme, c'est là où l'on voit réellement l'inversion sociale. Ce n'est pas, c'est, dans une société babylonienne normale, on ne dit pas d'une femme qu'elle épouse, on dit qu'un homme la prend. La femme lui est donnée. La femme lui est donnée et le mari la prend. C'est ça qui est le vocabulaire. Ici, ce n'est pas ça du tout. C'est elle qui aime, c'est elle qui prend l'initiative, c'est elle qui laisse tomber, c'est elle qui divorce en quelque sorte. Enfin, voilà la chose qui... Et alors, chaque fois, elle a transformé son amant en quelque chose d'autre. Et c'est ça qui est absolument scandaleux. Et c'est ça qui est absolument inadmissible pour la pensée mésopotamienne. Et c'est là que l'on voit le mieux la différence qu'il y a entre la société de l'Est avec la Babylonie et le pays de Sumer et du côté de l'Ouest avec, naturellement, la société syrienne et la société de la côte. Et là, il y a une immense séparation entre les deux. Il n'y a pas la même façon de voir les choses. Alors, je dis, là, il y a toute une série de choses. Le berger, le pâtre, le gardien de troupeau, on aurait pensé naturellement que c'était l'équivalent de Tammuz, qui est lui aussi un berger, mais il est évident qu'ici, le texte vous les sépare. Ce n'est pas la même chose. Hein, bon. Qui pour toi sans cesse entassait la cendre, ça veut dire qu'il te préparait à manger. Entasser la cendre, ça veut dire que l'on mettait des lits de cendre sur lesquels on mettait la galette à cuire. Et vous voyez ce qui se passe. C'est un travail de femme, ça. C'est la femme qui est capable, qui doit faire à manger à l'homme. Et ici, vous avez exactement l'inverse dans cette société. C'est l'homme qui prépare à manger à la femme. Hein ? Et celui qui garde le berger, c'est le berger qui garde ses troupeaux, le gardien de son troupeau, vous voyez ce qui lui arrive, il est transformé en loup, c'est-à-dire en animal contre lequel le berger doit lutter, et les aides du berger, c'est-à-dire les valets et les chiens, se retournent contre lui au lieu de l'aider à chasser le loup, puisque c'est lui qui est devenu un loup. Alors, vous avez exactement ici, comme cela, le tableau complet de cette société inverse. Bon. Et c'est là, c'est là que l'on aimerait avoir leur idéologie, les textes qui se racontaient, ce qu'ils mimaient, parce que quand on les voit pousser des grands cris, se taillader, s'agiter sous le soleil ou dans la poussière, etc., il est bien évident que ces gens ne sont pas simplement atteints de délirium tremens, mais qui font des choses et qu'ils miment des choses. Et c'est là où la comparaison avec les Hijra est extrêmement importante, parce que aux Indes, nous avons la possibilité de contrôler les différents niveaux. On a le champ complet, alors que là, on se dit, bon, mais où sont les textes? Ils sont là, les textes sont là. On en a un qui apparaît tout à fait à la fin, et les autres ont disparu. Alors, il est tout à fait possible, et ça serait un drame, que ce soit de la littérature purement orale qui n'ait jamais été écrite. Auquel cas, ça, c'est fini pour toujours, et le dernier des gens frénétique qui jouait cela a disparu avec le secret de ses textes. Bon. Ça, on peut toujours rêver que quelqu'un ait écrit un texte et qu'on puisse l'avoir. Alors, ce qui nous reste quand même, à l'heure actuelle, il nous reste tous les textes dont parle Gilgamesh sont en attente. Bon. Nous avons autour de la personne même de Dumuzi, c'est-à-dire le tout premier, le Tammuz de celui dont je vous ai parlé, le Tammuz, l'amant de ta jeunesse. Tu lui as loué une déploration annuelle. Il y a une littérature énorme que nous avons encore et qui est en cours de compréhension. Elle a la propriété d'être dans une sorte de sumérien particulier qu'on appelle le Hemesal. L'Hemesal est quelque chose qui... le sumérien normal s'appelle de l'Hemegi. On ne sait pas exactement. Il y a plusieurs interprétations pour Hemegi. La langue locale ou la langue noble, etc. Bon. Hemesal, c'est une langue qui est réservée aux femmes. C'est-à-dire qu'en sumérien, les hommes et les femmes ne parlent pas la même langue. Ils ne parlent pas la même langue. Ça, c'est quelque chose qui est assez courant aussi. C'est-à-dire que si vous regardez le drame sanskrit, par exemple, les hommes parlent en sanskrit et les femmes parlent en pali. Et vous avez dans une édition, en général, la transcription du pali en sanskrit pour pouvoir arriver à le lire. C'est-à-dire que le mode d'élocution n'est pas le même. Bon. La différence qu'il y a en sanskrit, c'est que le pali représente un état évolué de la langue sanskrite. C'est du moyen indien par rapport à de l'indien ancien. Donc, par la même occasion, on peut penser que les hommes cultivés connaissaient la langue savante, alors que les femmes qui n'étaient pas cultivées parlaient ce qu'on appelle le vernaculaire. Bon, c'est comme ça que l'explication qui est donnée la plupart du temps par le fait que les hommes parlent le sanskrit et les femmes parlent le pali. Et on a des textes dans lesquels les femmes disent « Oui, je connais le sanskrit, mais je ne l'emploie pas. » Elles sont cultivées, mais elles parlent la langue courante. Le problème n'est pas le même en sanskrit, parce qu'il ne semble pas que l'Hemesal soit d'une façon soit une évolution naturelle du sumérien. C'est une langue qui en est dérivé mécaniquement à côté et qui sert avant tout pour la lyrique. Et les textes autour de Dumuzi sont des textes lyriques. Et jusqu'à présent, si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, il y a deux ouvrages magnifiques, qui est Les harpes qui jadis, ou bien Les trésors de l'obscurité, qui sont dus à Thorkil Jacobsen et qui était un très grand sumérologue et qui a fait progresser beaucoup la compréhension de ces textes. Mais le problème fondamental, c'est que tout cet énorme corpus, qui est un corpus lyrique, est absolument sans aucune liaison historique avec la société. Et c'est complètement déconnecté. Et le problème est de savoir comment le réintroduire dans la société. Alors, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. quand on a fait des fouilles dans la ville de Ur, on a trouvé des montagnes de textes sumériens et les gens se sont précipités dessus, on en fait des éditions et ce sont des textes qui étaient extrêmement importants au point de vue de la religion, de la politique, de... Il y avait un texte qui était « Acclamation du clergé à Eridu devant l'arrivée d'Amourabi ». Chose absolument, Amourabi de Babylone, bien sûr. Bon. Et ces textes étaient pris au premier degré. Bon. Et il s'est passé une chose qui a été absolument admirable, c'est que pour sa thèse, Dominique Charpin a remis tous les textes sumériens dans les endroits de fouilles où ils avaient été trouvés, et on s'est rendu compte que toute cette littérature de mythologie, de politique, de grande littérature, etc., était en réalité une littérature faite par des clercs, c'est pour ça qu'elle avait si peu de comparaison avec le reste, et la littérature sumérienne, en quelque sorte, est redescendue du ciel sur la terre, et c'est devenu une littérature de placer pour faire plaisir à un roi ou d'exercice scolaire ou des choses de ce genre, etc. Et ça a été un choc absolument complet. C'est-à-dire que cette littérature qui était comprise comme étant l'émanation de la civilisation sumérienne était en réalité une littérature purement circonscrite à un milieu de lettrés. Et ça, ça change historiquement, ça change complètement la façon de voir les choses. Bon. Et le jour où toute cette littérature en émessale autour de Dumuzi sera réintégrée à un domaine archéologique précis et on pourra savoir qui s'en servait, comment on s'en servait et tout le reste, à ce moment-là, l'interprétation changera. Il est certain que, pour une bonne part, il y a une curiosité érudite de gens qui ont noté des choses populaires. Alors, vous me direz, comment ça se fait? Pensez aux frères Grimm, qui ont passé leur temps à écouter des contes de vieilles dames pour pouvoir écrire la littérature de contes qui existe à partir de ce moment-là. La curiosité, elle est absolument sur tous les domaines. Et il y a des gens qui sont curieux de tout. Alors, c'est assez beau comme littérature, il y a des gens qui ont dû apprécier cela. Le problème est, derrière cette littérature savante et très poétique, on aimerait savoir quelle est la réalité précise. La réalité, c'est qu'il y a un dieu qui souffre, qui meurt, qui renaît, et on aimerait bien savoir quelle est la à quelle partie de la population il faut attribuer cela, et absolument pas à tout. Quand on regarde du côté de la Syrie, on voit que Dumuzi existe parfaitement. Je vous ai dit qu'il faut faire très attention. Dumuzi, c'est une réalité proche-orientale et Sumer n'en est qu'une des attestations. J'étais très content de voir que je ne suis pas le seul à le penser. Il y en a plein d'autres maintenant qui commencent à le penser. Quand vous regardez du côté de la Syrie, vous vous rendez compte que la base de l'interprétation de ces dieux, ça peut venir en partie d'une vision naturaliste des choses. Si vous regardez, par exemple, en Syrie, ce qui se passe, le dieu Dagan est l'incarnation du grain qui meurt et il est lié au culte des morts. Enki, alors je vous l'ai mis en majuscule parce que c'est un idéogramme sumérien, c'est une expression sumérienne, c'est comme ça que les textes décrivent. Mais la prononciation, c'est Hayu. C'est le grain de vie, et en réalité, le grain de vie, il est lié à l'activité et à l'intelligence agissante. Bon, alors, vous me direz, oh, une interprétation naturaliste, ça ne va pas très très loin d'un point de vue religieux. Bon, ben, on constate en tout cas, on constate ça. On constate des choses de ce genre. Donc, il peut y avoir, derrière les grands mythes qui concernent Ishtar, eh bien, là aussi, une grande part de naturisme et de naturalisme, pardon, et de considérer que, bon, eh bien, c'est le cycle de la vie, de la mort, et que les gens l'ont interprété de certaines façons, et puis voilà comment cela se passe. Alors, si on se tourne maintenant du côté de Marie, Je vous ai dit, la grande différence entre l'Est et l'Ouest, c'est qu'il n'y a que la Sinou qui apparaît. Alors que du côté de l'Est, vous avez le Kourghara et les Sagoursags, c'est-à-dire les Kourgharous et les Assinous. Il ne faut pas faire attention à une chose de ce genre, parce que le Kourgharou, on l'avait vu pour le mythe de Idin Dagan A, enfin le mythe de Idin Dagan A, c'est le Sagoursag qui se mutile. Donc il apparaît à un moment donné, ce n'est pas quelqu'un qui est par nature quelque chose d'indépendant, c'est un Assinou qui s'étant émasculé, apparaît tel quel et ressent les sensations de Kourghara. Donc le fait que les textes de Marie ne mentionnent pas le Kourgharou n'est pas une chose très importante, vous verrez qu'il y en a d'autres à côté qui apparaissent et qu'il faudra expliquer. Regardons un des textes qui nous mentionne du personnel de temple. Bon. Alors, il faut arriver naturellement à le déchiffrer. Ces textes, si vous les prenez d'un point de vue philologique, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Comme nomenclature de dictionnaire, le texte est relativement pauvre. D'un point de vue historique, il est en réalité extrêmement riche. Vous voyez ce que c'est ? Il y a un tableau. D'un côté, vous avez un demi-cycle d'argent, poids d'un anneau, et ensuite, vous avez un nom propre. Et puis, ensuite, vous avez une série qui est reprise par Temple, la déesse d'Eritum, Temple, la déesse d'Anunitum. Et je vous ai mis entre parenthèses, pour votre asbaudissement, la traduction en français de ce que veulent dire ces noms propres. Les noms propres ont tous un sens. Si un nom propre n'a pas un sens, c'est un nom propre étranger ou que vous l'avez mal lu. C'est l'un ou l'autre. Quand vous voyez un texte publié avec des noms propres un peu trop bizarres, vous pouvez dire l'éditeur ne s'est pas beaucoup fatigué. Bon. Alors, dans le temple de la déesse d'Eritum, c'est-à-dire qui habite à Der, bon, elle porte des noms extrêmement simples, la déesse de Der s'appelle d'Eritum. Vous avez des femmes, Eshtarumi, Aratima, Deritum Charat. Vous voyez, la femme qui habite Deritum et qui porte le nom de la déesse de Der est une reine. Ça marche très bien. Ensuite, vous avez la déesse d'Anunitum. C'est là où vous voyez apparaître des hommes. Alors, le premier Ramou, il est cassé. Sa première partie, on n'arrive pas à la lire, il y a un trou à la place. Ensuite, vous avez Chelebou qui s'appelle le renard. Goussanou, on ne sait pas ce que ça signifie. Troisième registre, temple de déesse Anunitum. Le script s'est reposé, il a mis blanc, blanc, blanc. Et puis après, tout d'un coup, vous avez Ilirasnayou, mon Dieu est doué de sagesse. Une dame qui s'appelle Dame. Et puis un bout de nom propre qui s'habite l'appelle Enrani. Vous me dites, qu'est-ce qu'on peut faire avec un texte de ce genre ? Vous me direz, bon, on le laisse de côté. On n'en tire rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par ailleurs, on sait que Chelebou et Ilirasnayou, ce sont des Assinous. On le sait par d'autres documentations, que vous allez voir par la suite. Deuxièmement, dans le temple d'Anunitum, si vous en avez un qui est un Assinou, qui est chez les bouts, il a forte chance à parier que Amou, X, Amou et Goussanou, ce sont des Assinous aussi. Bon. Le plus clair, c'est un demi-cycle d'argent poids d'un anneau. Pourquoi est-ce que l'on donne un anneau portant le poids d'un demi-cycle d'argent? C'est une somme standard qui est donnée à un messager. Ça veut dire que ces gens sont arrivés au palais avec un message. Et le message qu'ils peuvent avoir à dire, c'est un message divin, ce n'est pas autre chose. Et on le connaît très clairement pour Ili Raznayou. On le connaît aussi pour Rocher Lébou. Ce sont des gens. Donc, et c'est ça qui était. On l'avait vu déjà ça l'année dernière. Quelqu'un qui arrive, envoyé par la divinité, est reçu avec les mêmes égards qu'un ambassadeur qui est envoyé par un roi d'à côté. La divinité est une reine ou un roi par nature. Alors, ce texte est un texte, un bordereau de dépenses, dans lequel vous voyez les sommes qui ont été données, un demi-cycle d'argent, un quart de cycle, un quart de cycle, un quart de cycle, etc. On peut faire la somme. Cette somme a été donnée en échange de tous les messages qui sont arrivés portés par ces gens-là. Si vous regardez ce texte, il n'a naturellement pas d'autre sens que les messages sont arrivés au même moment. C'est pas un texte, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Donc, on ne peut pas dire que c'est un compte annuel ou mensuel. Et il y a eu un moment donné où toute une série de gens venant du temple de la déesse d'Eritum, venant du temple de la déesse d'Anunitum, en deux vagues, la première, bon, manifestement, la seconde, on ne sait pas ce qui s'est passé, ont apporté des prophéties à la divinité. Et là, on le voit très nettement, parce que c'est le tarif qu'ont les messagers. Alors, celui qui est le mieux connu dedans, c'est Chélébou. Chélébou, le renard, il émarge dans le temple de la déesse Anunitum, et nous avons encore un texte dans lequel un message de lui nous est transmis. C'est la grande prêtresse qu'il est allé trouver pour lui parler de la façon dont il vivait dans le temple d'Anunitum et qui le transmet au roi. Et vous allez voir comment ça se passe. Autre chose, dit la grande prêtresse. Alors, c'est un texte 2698, que c'est moi qui l'ai édité, je l'ai beaucoup changé depuis, la traduction que vous avez est nouvelle. Chélébou Mlassinou m'a dit ceci. J'avais reçu le sel que tu sais de la bière Idatum. Alors, on lit tout le texte, je vous le commenterai après. Lorsque j'ai versé l'Idatum dans le feu, alors elles m'ont donné de la bouillie dans un vase à colle au lieu de farine. Une première fois, je l'ai pris calmement. Il y a eu une seconde fois, alors que j'en étais arrivé au versement de l'Idatum. C'est-à-dire qu'ils ont lui refait le coup de lui donner de la bouillie au lieu de donner de la farine. Maintenant, c'est la troisième fois. Elles se sont installées dans le temple. Moi, j'habite au large. Alors, je suis désolé, mais c'est le texte qui le commande. Hein. Je peux vous le dire en acadien, si vous voulez. Inazé ou Shinatim. À d'autres époques, je vous l'aurais dit en latin. Et vous l'auriez compris. En outre, ma nourriture, c'est le roseau de l'enceinte. Bon. Alors, ce qui est important ici, c'est Chélébou vous décrit sa vie dans le temple où il est à demeure. Et vous voyez que ça se passe, sinon mal, en tout cas pas comme il le souhaiterait. Vous voyez ce texte qui est extrêmement frustrant. « J'avais reçu de celle que tu sais, Aniatum », dit le texte. Alors, « celle que tu sais », la grande prêtresse sait parfaitement de qui on parle. En nous, on aimerait savoir. La politesse consiste à ne jamais appeler un chat un chat. On dit « ce coquin » ou « cet individu » ou « celui que tu sais ». Voilà, c'est comme ça que l'on parle. On ne dit pas le nom. Et cela est extrêmement dommageable parce que lorsque l'on se rebelle contre le roi de Marie, on dit « celui-là », en parlant du roi de Marie, et quand vous découvrez les textes 4000 ans après, vous dites de qui on parle. Eh bien, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se coupe toujours dans une lettre, alors quand vous prenez le dossier complet, vous dites « Ah bon, on parle du roi de Marie ». Au début, ce n'était pas évident de trouver dans le palais du roi de Marie des lettres racontant des horreurs sur lui, n'est-ce pas ? La police simplement a attrapé ces documents dans la campagne, les a envoyés au roi, elles ont été archivées et nous n'avons pas la réaction du roi quand on lui a lu ces lettres. Bon, c'est autre chose, on n'a pas l'aspect journalistique que nous pouvons avoir à l'heure actuelle. J'avais reçu de celle que tu sais, de la bière Idatum. La bière Idatum, c'est une sorte de bière avec laquelle on fait des sacrifices. Et le sacrifice, ça consiste à faire une libation et on verse la bière dans le feu. Alors, vous me direz, si on verse la bière dans le feu s'éteint. Bon, ben, semble-t-il, non. Je ne sais pas ce qui se passe, mais enfin... vous voyez très bien, on fait une libation et ça n'éteint pas le feu. Lorsque j'ai versé l'idatum dans le feu, ou l'ont-ils versé à côté, théoriquement, on fait une deuxième offrande. Ça, c'est l'offrande pour que la divinité boive. On lui fait une offrande pour que la divinité mange. Et on lui verse de la farine. Et cette fois-ci, la farine n'a pas été donnée. On a donné de la bouillie. Et en plus, dans un vase à colle. Bon, on traduit mot à mot, le texte est-il donné. C'est-à-dire que, manifestement, les deux dames inconnues, ou les trois dames, ou les quatre dames, je ne sais pas combien il y en avait, inconnues là, se sont amusées à non seulement donner autre chose que de la farine, mais de la bouillie, et dans un vase, etc. Donc, il a dû avoir des problèmes pour le verser. Bon, manifestement, il est furieux. C'est quelque chose qui s'est mal passé. Et j'imagine que les autres dames étaient certainement très contentes de ce qui se passait. Bon. Alors, une première fois, je l'ai pris calmement, ça veut dire qu'il n'a pas fait de réflexion. Il y a eu une seconde fois, alors que j'en étais arrivé au versement de l'idatum, on lui a refait le coup de la bouillie. Maintenant, c'est la troisième fois. Et alors, manifestement, ces femmes... Ce sont certainement des prêtresses. Elles se sont installées dans le temple. Elles ont pris leurs aises dans le temple. Bon. Et moi, j'habite au large. Alors, c'est certainement ironique, et l'expression qui vient après, de la merde et de l'urine, ça veut dire, il faut comprendre, en français, nous traduirions de façon différente. On dirait, oh ben, ça alors, ou bien merde alors, ou chose de ce genre. C'est un juron. C'est un juron. Quand j'avais édité le texte la première fois, je ne connaissais pas assez bien ce genre de texte babylonien et je l'avais pris d'une façon dramatique. J'avais dit, moi j'habite de la merde de l'urine et je m'étais dit, oh ben c'est le temple, ça veut dire que le temple qui se trouve en dehors de Marie est un temple abandonné et que les paysans se servent de ce temple pour un usage immodeste. Tout être qui a fait des fouilles en Syrie se rend compte à un moment donné que la fouille qui a été abandonnée et a servi à d'autres emplois entre-temps et n'a pas été non visitée ni inoccupée. Alors, je l'avais pris comme ça en disant on en a fait un usage immodeste. En réalité, je pense que c'est tout à fait différent. C'est une injure. Ça revient à dire... c'est un scandale. Bon. En outre, ma nourriture, c'est le roseau de l'enceinte. Alors, la nourriture, c'est le roseau de l'enceinte, c'est-à-dire qu'il est obligé de manger. Non pas, il ne participe pas au sacrifice de la divinité, mais il mange. Bon, certainement, il doit y avoir un roseau d'homme comestible quelconque dont il fait sa nourriture et sur lequel il est obligé de se rabattre. Si vous vous rappelez la malédiction portée par la reine des enfers contre la Sinou, vous avez exactement la même chose ici. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut qu'il mange. Et il y a une expression extrêmement bizarre qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est le pain de charrue. Qu'est-ce que c'est que le pain de charrue? Je vous ai dit, on ne sait pas. Mais c'est certainement quelque chose de défavorable. Et il buvait, il était obligé de boire l'eau croupie de la ville. Bon, alors... j'en avais tiré l'argument que c'était un paria dont la vie était difficile et qui n'avait pas de chez lui. Si vous regardez le texte dans lequel l'assinum de Marie décrit la vie qu'il peut avoir, c'est exactement la même chose. Vous avez une rencontre absolument complète entre quelqu'un dont on se moque et dont on ne facilite pas la vie et qui est obligé de manger une nourriture qui n'est certainement pas excellente, le roseau de l'enceinte, par rapport au texte étiologique qu'on avait ailleurs. Alors, le deuxième que nous avons, c'est Iliras Naïou, celui que vous avez là, après celui de Desenonitum, et lui nous donne un oracle contre Babylone. On le reverra lorsqu'on verra les textes d'oracle. Bon, ce qui manque pour Marie, c'est les travestissements et l'automutilation qui lui fait perdre sa virilité. Ces choses n'apparaissent pas. Et si vous regardez le texte de 2698, vous ne pouvez rien en tirer de parallèle pour la documentation qui hésitait à en faire soit un homosexuel, soit un eunuque. Là, qu'est-ce que vous avez quoi ? Vous avez un pauvre diable dont on se moque et dont on ne rend pas la vie facile. Le deuxième, avec Iliras Naïou, c'est pareil, n'est-ce pas ? Bon. En revanche, ce qui est très clair, c'est que quelqu'un comme Iliras Naïou, il a une formation de nom propre qui n'est pas normale. Elle n'est pas normale. C'est une formation qui est autre que celle qu'on peut avoir. Alors, à quoi pouvait-il ressembler ? Eh bien, si vous êtes allé au musée de Damas, vous n'avez pas pu ne pas voir la représentation qui est celle de Ur-Nanshe. Il y en a d'entre vous qui l'ont vue ? Alors, je vous l'ai mis de profil, parce que depuis la découverte de cette statue, qui est un des fleurons du musée de Damas, la question c'est il ou elle ? Alors, je m'empresse de dire à ceux qui disent c'est, d'après l'extérieur, manifestement une femme, que ce n'est pas très galant, parce qu'elle ne représente pas tout à fait les critères que nous pouvons avoir. Alors, les gens vous disent, « Oh, ben, regardez ses croupes, sa croupe. » Bon, le problème, c'est que la personne est assise et on ne sait pas très bien comment elle est représentée, et elle a une poitrine. Bon, ça, une poitrine, elle n'est pas exagérée, n'est-ce pas ? Bon, elle n'est pas exagérée. Est-ce que vous lui trouvez une tête féminine ? Avouez que, elle a un petit nez pointu, mais à part ça, c'est... Le problème, c'est que, alors, les esthètes vous disent, vous n'avez qu'à la regarder, c'est une femme. Bon. Les philologues vous répondent, Ur-Nanshe. Ur, c'est un nom propre d'homme qui commence ainsi. Et pas un nom de femme. Ça veut dire celui de Nanshe. Celui de Nanshe. Et dans le texte qui accompagne, la personne parle d'elle au masculin. Elle parle d'elle au masculin. Donc, le nom propre est masculin. La phraséologie est masculine. L'apparence est féminine. Conclusion, c'est un eunuque. Il est bien évident que... alors là, il faudrait avoir d'autres... Bon, c'est un chanteur. Alors, les gens vous disent, bon, eh bien, c'est extrêmement simple, c'est un castrat. Et alors, se pose à ce moment-là une très grande question. Un castrat, c'est quand même quelque chose qui est peut-être un modernisme, parce que la seule caractéristique que l'on ait pour un chanteur à l'époque, c'est qu'on lui fait dormir les yeux. L'homme est creux, a les yeux crevés, l'enfant a les yeux crevés. Et, ne riez pas, elle a les yeux crevés, et alors, On peut dire à ce moment-là qu'il y a une métonymie. On a appelé une autre partie par une autre, mais très souvent, les chanteurs, on vous dit, il voit ou il ne voit pas. Bon. Et là, théoriquement, les yeux ont l'air tout à fait normaux, etc. Bon, je pense que la notion de chanteur, ici, doit être prise d'une façon tout à fait avec précaution. Parce que dans le palais de Marie, vous avez beaucoup de chanteuses que l'on considère comme des femmes secondaires du roi, mais il n'y a pas de chanteur. Et rien n'indique que certaines chanteuses sont des hommes qui seraient des castrats. Rien ne l'indique. Ça, c'est vraiment, c'est forcer la documentation et vous allez trouver à tout prix. Et je pense que la personne que vous avez là risque de représenter justement cette population autour. Elle n'a pas été trouvée dans le palais. Hein. Ça risque de représenter justement cette population ambiguë dans le cercle de la déesse où vous avez des personnalités qui sont ni hommes ni femmes. Et bien évidemment que si on se pose la question, c'est qu'elle n'est ni homme ni femme parce qu'elle est masculin d'un point de vue grammatical et féminin d'un point de vue de la forme. Alors, ce qu'il y a à côté des assinous, la plupart du temps, dans le temple, ce sont des gens on les appelle des mouchoum. Et je vous ai dit que mouchoum, ça signifiait le fou, celui qui est complètement fou, c'est-à-dire qui a la cervelle dérangée. C'est ça que ça signifie d'un point de vue étymologique. Et les seuls renseignements que nous ayons par rapport à eux, qui sont constants. Vous savez que chaque fois que l'on transmet un message au roi, on envoie en même temps que le message une mèche de cheveux pour que le roi puisse éventuellement poursuivre des interrogations oraculaires à ce propos. Et quand on parle d'un mouroum, au lieu d'envoyer une mèche de cheveux, on envoie une touffe de cheveux. On dit etkoum. Et il est tout à fait possible que cela soit une allusion directe à la masse de cheveux qu'il avait sur la tête et que l'on a à ce moment-là pour la définition dans la Bible de toute une série de gens qui sont des excités et qui vivent en bande et qui ne sont pas... qui sont alors eux considérés comme de faux prophètes. Bon, l'autre renseignement que l'on a par rapport à eux, c'est que mange de la viande crue et tout particulièrement pris sur un animal vivant. C'est-à-dire on leur donne l'animal et ils le mangent vivant. Bon. C'est-à-dire qu'on a tout à fait l'impression que là encore, si la documentation sur les assinous ne permet pas de retrouver la documentation qui se trouve du côté de la Mésopotamie, il y a toute une série d'indices qui montrent que ce sont des gens qui sont quand même tout à fait particuliers. Alors, arrivé à ce moment d'exposé, vous voyez que nous arrivons à définir deux choses entièrement différentes. Vous avez une prophétie qui accompagne la divination, qui est le fait de l'apiloum, l'apiloum étant celui qui parle après le devin. Ça représente la grande divination. Et c'est celle que nous avons vue l'année dernière et qui est effectivement celle qui se compare le mieux avec la documentation d'origine biblique. Et puis, à côté, vous avez une autre prophétie que l'on peut appeler spontanée et qui est le fait d'une autre population et qui, elle, vient des tréfonds du temple. Et je pense que c'est ces deux choses-là qu'il faut prendre maintenant ensemble pour définir la prophétie. Vous ne pouvez pas avantager l'une par rapport à l'autre. Et il est évident que les deux, naturellement, ont coexisté tout le temps. Du côté de l'Ouest, vous l'avez en permanence, il y en a une qui est privilégiée. À Marie, vous avez les deux, elles sont prises toutes les deux avec le même sérieux. Et du côté de l'Est, on considère que la grande prophétie et la prophétie secondaire, c'est du pareil au même et on n'accepte aucune des deux. Voilà, ça c'est une chose qui est absolument fondamentale. Alors, regardons maintenant un phénomène, un fait historique, c'est comment peut-on sauter de la documentation la prophétie parallèle à la divination. Je vous ai dit que c'est avant tout dans la région de l'Oronte que l'on a, c'est-à-dire dans la région du nord-ouest de la Syrie. Quel lien peut-il y avoir entre cette divination et la divination ultérieure que l'on retrouvera du côté de la côte ou que l'on retrouvera du côté de la Palestine? Bon. Eh bien, à l'heure actuelle, on arrive à faire le lien entre les deux documentations. Ça, c'est quelque chose qui est entièrement nouveau, mais dont il faut maintenant tenir compte. Pour tout ce qui est la période moyenne, il faut regarder du côté des Hittites. Les Hittites, vous savez, c'est cette civilisation qui se trouve du côté de la Turquie, dans le centre de la Turquie, qui est une documentation de langue indo-européenne, mais qui utilise beaucoup le cunéiforme, qui écrivent aussi en partie en akkadien. Et ils ont translaté dans leur langue à eux beaucoup de textes qui ne sont plus attestés ni en Syrie, ni du côté de l'Est. Donc la documentation hittite est quelque chose qui est extrêmement... C'est un témoin traduit de ce qui a disparu. Et chez les Hittites, il y a un terme extrêmement bizarre qui apparaît, qui est le Shiunianza. Et dont la formation est extrêmement simple. Si vous connaissez un petit peu les langues indo-européennes, le Ansa, c'est un participe en Ant, que vous avez en latin encore, ou dans les adverbes, le plein d'adverbes dans des langues romanes. Siou, c'est l'équivalent du grec théos. Et le ia est un verbe, et ça sert à former des verbes. C'est le siou nianza, c'est celui qui a en lui le Dieu, c'est l'homme qui porte en lui la divinité, au sens étymologique du terme. Le Siou et le Théos, ça vient du terme indo-européen qui signifie le ciel. Bon. Cet individu, il est attesté dans des prières. La deuxième prière contre la peste et la prière de Mursili à la déesse soleil. Chez les Hittites, le soleil est une femme et non pas un homme. Bon. Et il a comme rôle, non pas de purifier, ce n'est pas un prêtre purificateur, c'est un prêtre qui informe sur l'impureté qui peut exister. Et voici dans la prière pour la peste ce qu'il dit, et alors que vienne l'inspiré, c'est le Siunianza, que vienne l'inspiré et qu'il le dise. Qu'il dise, c'est-à-dire quel mal il y a dans le pays et qui empêche que le Dieu que le Dieu bénisse le roi et fasse que le pays se porte bien. Ou bien que l'établisse la vieille, le magicien la ruspice, ou bien qu'un individu le voit dans un rêve. Alors, la vieille, c'est quelque chose qui est fondamental dans les textes hittites. On le traduit en général par la sorcière. C'est la vieille femme qui est au courant des secrets pour faire un rituel, pour faciliter les choses, etc. Et en quelque sorte, c'est le répondant féminin du magicien. Et vous avez la ruspice, il faut prendre la ruspice dans le sens propre de celui qui regarde les oiseaux. Il regarde les oiseaux. Donc, vous voyez que l'inspiré est capable de raconter ce qui se passe de la même façon qu'un magicien, qu'une magicienne ou que quelqu'un qui regarde les oiseaux. Ou bien qu'un individu le voit dans un rêve. Et vous verrez qu'à Marie, le rêve et la prophétie marchent ensemble. Bon. Voilà quel est le rôle de l'inspiré. Vous en avez un exemple, on pourrait prendre d'autres exemples. Ça peut permutée avec celui qui regarde des rêves. Et on disait, bon, eh bien, on est descendu du XVIIIe siècle Mariotte pour l'Oronte au XIIIe siècle Hittite, et puis il y a encore un bond terrible à faire du XIIIe siècle jusqu'à l'époque hébraïque. Hein, bon, il y a quand même un grand enjambement à faire. Eh bien, pour vous montrer à quel point, petit à petit, les documents arrivent pour se mettre en place, nous possédons maintenant une stèle louvite sur le culte du dieu de l'orage Attilbarsip. Alors, la date, c'est le Xe siècle ou le IXe siècle avant le Christ. Donc, vous voyez, paf, ça descend. Ah, puis après, il y aura la stèle de Zakour, bien sûr, mais ça, je ne vous en parle pas parce que ce n'est pas à moi de vous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que le louvite ? Le louvite, c'est une langue apparentée au hittite et qui est écrite et qui a survécu des langues indo-européennes du côté de l'ouest lorsque le grand empire hittite s'est écroulé. C'est-à-dire le grand empire, la capitale Ratusha a flambé, a disparu, mais il y a toute une population indo-européenne qui continue à survivre, et le pouvoir hittite qui a perdu Ratusha se perpétue à Carchemish du côté de la Syrie, et ils ont laissé toute une série de textes très compliqués qu'on arrive maintenant à les comprendre. Au point de vue de la géographie, vous voyez, les Hittites se trouvaient quelque part par là. Ici, la Carchemish, qui représente le grand centre récent dans lequel le pouvoir hittite s'est réfugié lorsque les Phrygiens se sont emparés de l'empire hittite. Et toute cette région-là est une région dans laquelle il y a de la langue louvite, des inscriptions louvites. Et tout particulièrement le texte dont je vous parle, hein, celui qui est ici, édité par Guy Bunas dans ses trouvailles, a été trouvé à Tel Ahmar. Tel Ahmar, c'est le nom moderne de Tilbarsip, qui est le nom ancien, et qui à l'époque s'appelait Massouari. C'est un site qui se trouve sur une route extrêmement importante et qui a passé son temps à changer de nom. Quand les Assyriens sont arrivés, ils ont encore changé le nom. Bon, alors, à l'heure actuelle, faites attention que Tilbarsip, si ça s'appelle Til comme cela, ce n'est pas un nom ancien, c'est un nom ancien. Le nom moderne, c'est celui-là. Il se trouve juste en face de Carchemish, là. Et le document dont je vais vous parler a été retrouvé dans un petit village à côté, tombé dans l'Euphrate, et aux chances, n'est-ce pas, l'Euphrate, au lieu d'effacer tous les caractères de la stèle, les a simplement nettoyés, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolument, à l'heure actuelle, qui se lit sans aucun problème. Si vous avez eu la chance d'aller à Alep, vous avez dû remarquer ce magnifique document qui se trouve dans le jardin à l'intérieur du musée, protégé par un petit auvent, parce qu'il ne faut quand même pas que la pluie lui tombe dessus. Voilà. Et c'est, bon, comme il y a très peu de gens qui soient capables de lire ce genre de texte au monde, le texte, était, même inédit, était livré à l'admiration du monde en disant « si vous arrivez à le comprendre, allez-y ». Il doit y avoir 3 ou 4 personnes au monde capables de le lire réellement. Alors, cette stèle, vous voyez comment elle se présente. Elle se présente avec le dieu portant le foudre dans la main, avec son grand idéogramme qui le présente avec les 2 ailes du soleil, et il est monté sur un animal. C'est la caractéristique normale d'un dieu syrien. Il est monté sur un animal totem qu'il représente. Bon, c'est le veau d'or, si vous voulez, sans la divinité. Et alors, vous avez naturellement sur toutes les faces, ça me semble le devant, mais vous avez un texte qui est là, ici sur les côtés, et puis derrière, Alors, il est représenté ici, et voilà comment ça se présente. Vous voyez, ce sont des hiéroglyphes néo-hittites. Alors, pour que ce soit plus clair, je vous ai donné la représentation dessinée par David Hawkins. Vous voyez comment l'écriture est réapparue à ce moment-là, quand les gens vous disent naïvement « Oh, l'écriture archaïque, ce sont des idéogrammes », et puis après, ça devient de moins en moins imagé et ça devient les écritures alphabétiques que nous employons. Quand ils se sont mis à créer une écriture, ils ont réécrit des idéogrammes. Hein, et regardez ça, ça signifie « moi ». Moi, ça commence toutes les inscriptions. Bon, et avouez que c'est quand même quelque chose qui est évident. Wamu, c'est-à-dire, avec la main, il se désigne lui-même pour dire c'est moi qui ai fait tout ce qui suit. Et alors, ensuite, vous avez toute une série de signes, naturellement, avec, vous voyez les têtes ici. Bon, et le texte, naturellement, se poursuit ainsi. Donc c'est ce qu'on appelle boustrophédone, c'est-à-dire comme un bœuf qui laboure. C'est-à-dire que le bœuf va jusqu'à une partie du champ et puis il revient et il refait son sillon comme cela. Bon, alors ce qui est intéressant ici, c'est ça. C'est ça. Bon. Ça c'est le signe du dieu. Personne n'a expliqué pourquoi le dieu était représenté comme ça. Ça veut dire le dieu de l'orage. Voilà le dieu, puis vous avez le signe de l'orage ensuite. Alors, voilà un texte, une stèle, comme toutes les stèles, elle va raconter un des hauts faits du roi. Et le roi, naturellement, le roi est victorieux, parce que s'il n'est pas victorieux, il ne fait pas de stèle. C'est quelqu'un d'autre qui le lui fait à la place. Bon, ça, c'est bien évident. Donc, toutes les stèles chantent la gloire d'un roi. Et dedans... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui fais ça? Voilà comment ça se présente. C'est une écriture, c'est une langue qui était extrêmement simple, mais qui est abominablement compliquée quand quelqu'un l'édite. Parce que, vous voyez, chaque signe a reçu une valeur phonétique, mais chaque idéogramme, pour simplifier les choses, a été appelé en latin. Alors, Deus, ça veut dire Dieu, Exercitus, ça signifie l'armée, et Solium, ça signifie le siège. Bon. Et l'inspiré m'a dit, établis tarunt de l'armée. Wa, c'est le début de la phrase. Mou, c'est moi. Vous avez une vraie langue indo-européenne. C'est assez facile à le voir. C'est-à-dire, asazata, c'est à annoncer. Et le ta, c'est l'équivalent de le taux du grec dans les verbes grecs, si vous en avez fait un petit peu, n'est-ce pas, etc. Alors, voilà le. L'inspiré se dit. Deus na mi-i-sa, c'est-à-dire celui dans lequel il y a la divinité, et vous retrouvez dans la langue louvite exactement la même chose que dans la langue hittite. C'est-à-dire que le terme, alors Deus, on sait que ça se lit massa, et vous avez le complément phonétique, massanamis, avec le participe en mi, louvite, égale siunians en hittite. Vous avez... quelqu'un qui dit au roi, si tu veux conquérir le pays et être victorieux, il faut que tu fasses une fondation pour le dieu Tarunt de l'armée. Ça ne peut pas être un devin qui dit une chose de ce genre. Parce qu'un devin vous dira, et ça, on le sait chez les titres, ça fonctionne comme à Belluni ou à Marie, il lui dira, tu vas gagner, tu ne vas pas gagner. Par oui ou par non. S'il donne un message extrêmement précis, établi ta route de l'armée, eh bien, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus loin dans le concret, Et c'est exactement comme ça que les prophètes disent déjà à Marie, il faut que tu fasses une offrande à telle divinité. Pour la petite histoire, regardez bien Tahunt. Tahunt, c'est la grande divinité de l'époque. Ça vous rappelle quelque chose ? Je vois votre silence que... Ou bien vous dormez complètement, ou bien vous ne savez pas. C'est l'équivalent de Tarcon, Tarcon l'Ancien ou Tarcon le Jeune chez les Latins, n'est-ce pas ? C'est une des preuves que l'on peut avoir qu'une partie du culte d'Anatolie a terminé en Italie. Tarcon, alors, Tarcon n'a rien à, ne signifie rien en étrusque, naturellement, mais en hittite, ça signifie le triomphateur, celui qui l'emporte, etc. Il n'y a pas de raison de mettre en doute une évidence de ce genre. Mais c'est le grand Dieu, c'est le grand Dieu de l'orage. Voilà. Donc, il est évident que du côté de l'Ouest, on a maintenant le lien complet entre les textes de l'Oronte attestés par Marie, les textes hittites qui montrent qu'il y a un prophète qui est capable de dire au Dieu, au roi, ce qui ne va pas. Vous avez maintenant un texte du 9e siècle, fin du 10e au début du 9e siècle, qui vous dit de façon extrêmement précise ce qu'il faut faire pour gagner la guerre. Vous arrivez après à la stèle de Zakour et vous avez après dans les textes de hébreux, vous avez la fin. Donc la ligne complète existe. Alors, ce qui nous reste maintenant à voir, c'est justement comment les gens vont pouvoir réagir à cette prophétie et quand est-ce que ces prophéties arrivent. Alors, il va falloir naturellement jouer sur les deux tableaux, le tableau de la grande prophétie et le tableau de la petite prophétie, c'est-à-dire les grands prophètes qui sont les Apiloum et les autres qui sont des Mouchoum ou des Asinoum. Et il est évident que vous avez là exactement la même séparation que vous avez entre le diseur de bonne aventure, et qui n'engage que lui, mais que l'on écoute parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut raconter, et puis vous avez en même temps celui qui va être le conseiller royal. Et on va voir, au point de vue des cultes, comment les choses s'arrangent les unes par rapport aux autres.